si, il y en a certaines qui peuvent se ressembler pas mal.
Ah bah, les algues rouges, c'est l'horreur.
Les chercheurs du projet Terre des Îles se réunissent régulièrement pour faire un point sur l'état de leurs recherches. Nous sommes à l'université de Vannes, où l'on retrouve Christophe Serino. Il est ingénieur de recherche en histoire et patrimoine maritime au CNRS. Il est avec Catherine Dupont, l'autre responsable du projet Terre des Îles.
Les archives ne nous permettent pas de quantifier la part réelle de ces ressources marines, en dehors du poisson qui a une valeur marchande, celui qui est négocié. Et moins encore, quelle part ces ressources marines occuperaient dans ces économies de subsistance. Ce sont de toute façon des systèmes polyactifs. On fera, ça fait partie de nos souhaits, hein, une journée pour laquelle on essaiera de confronter nos regards académiques dans nos sciences respectives sur ce que l'on peut définir être la subsistance ou les formes de subsistance. Pour les historiens, la matrice polyactive, elle est une donnée basale. Voilà. Quand vous vivez bien de l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'aller pêcher. Quand vous vivez bien de la pêche, vous n'avez pas besoin d'aller bêcher un champ. Et on trouve déjà, sous l'Ancien Régime, avec des archives fiscales, avec plein ensemble de documents, à documenter ceux qui vivent très bien de la pêche, ils ne sont pas très nombreux, hormis les armateurs, ça c'est pas un scoop, et ceux qui vivent tout à fait correctement du travail de la terre, qui vont faire qu'ils n'ont pas besoin d'embarquer à bord des navires. Vous trouvez dans des îles, eh bien, à Belle-Île-en-Mer, paroisse de Locmaria, 18e siècle, un ensemble significatif de foyers avec des Iliens qui n'ont absolument pas besoin d'aller pêcher parce qu'ils ont des terres favorables et c'est pas mal parce que ça leur évite déjà de monter sur les bateaux du roi pour faire un service militaire. Alors, on ne mesure pas la part de ces ressources, comment dire, de l'estran dans ces économies de subsistance, mais je serais amené à en reparler, je l'ai écrit dans un papier qu'avait lu Catherine et à la suite de ça, on a monté ce projet. Il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article et que je vais continuer à documenter avec Terre des Îles, que c'est vraiment, pour une partie des populations du littoral, la clé de voûte d'un système polyactif. Alors, je continue les narrations, cette fois-là, le maçon du parc, 1er 18e siècle. Il se fait aussi une pêche sur les roches et le sable, à la basse eau. On y prend des huîtres, des mulets, des berniques, des pousse-pieds ou glands de mer, que les pauvres insulaires viennent recueillir sur les roches. Ils trouvent encore dans les cavités des roches des homards, des crabes, des langoustes et quelquefois des congres. Les pêcheurs font aussi quelquefois la pêche des huîtres à la drague. L'instrument dont ils se servent n'a qu'un seul couteau. Ces huîtres se consomment dans l'île. Ce qui est ramené à un tableau donc de synthèse. Hein. On voit bien ce qui se fait à pied, ce qui se fait à partir d'embarcation. Les lieux de pêche sont décrits. Et dans d'autres sources, ils pourront être décrits avec beaucoup plus de précision. Et puis, on voit les espèces. Donc ça, c'est a priori ce qui va vous intéresser beaucoup plus, hein, vous, les collègues biologistes. Et donc, on se rend compte, fondamentalement, qu'on retrouve tout un ensemble de ressources marines eh bien, qui existent encore très largement aujourd'hui dans les mêmes endroits. Alors, cette collecte semble concerner une partie plus large de la population à l'occasion des grandes marées. Il va me dire, oui, évidemment. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je ne pouvais pas a priori le savoir sans avoir lu ces sources du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et donc, en effet, l'inspecteur général ajoute, « Lors des basses mers des vives eaux, on parle bien de cela, les riverains font encore à pied la pêche des rocailles et coquillages. » Et coquillages au pluriel, et je pense qu'a priori, tout ce que vous nous avez montré, là, la quelques plus de vingtaine, je pense à Alessandro hein, et Catherine, vous avez montré la quelques vingtaines de coquillages différentes, hein, d'espèces différentes que vous avez montrées dans un temps plus ancien, eh bien voilà, lorsqu'ils font appel aux coquillages, c'est vraisemblablement à tout ça dont ils nous parlent. Ils précisent que, je cite, « Les pêcheurs à pied se servent de crocs emmanchés d'une perche ayant 8 à 10 pieds de long. Avec cet instrument, ils retournent les roches de moindre pesanteur pour y prendre les poissons qui se sont cachés dessous lorsque la mer s'est entièrement retirée. » C'est extrêmement synthétique. Hein. En quelques phrases, ils ont cette capacité-là. C'est très riche en termes d'informations. Pour ça que les remettre sous forme tabulaire, ce sera tout à fait intéressant, et je continuerai à le faire, bien sûr. Alors, il est tentant pour l'historien d'élargir les ressources décrites à des ressources plus actuelles, puisque les ressources qui sont décrites sont celles, globalement, qu'on trouve encore aujourd'hui. Alors, on ne parle pas précisément là dans cette enquête, mais j'en trouverai d'autres pour documenter ça, de crevettes, de bouquets, des araignées de mer, des tourteaux, des moules, des sèches, ça n'a pas été décrit, mais enfin les moules, a priori, pour un historien, là c'est pas décrit dans ce document, mais enfin a priori, pour un historien, sous le regard des biologistes, il n'y a aucune raison, vu les espèces qui sont décrites là, qu'il n'y a pas aussi des moules. Je trouverai à un moment donné le document qui le décrira. Voilà. Donc, mais il est tentant à ce stade eh bien, de dire qu'en effet, les bouquets, les araignées de mer, les tourteaux, les moules, les seiches, tout ça, eh bien, on doit pouvoir aussi trouver ça dans leur pêche. Alors pour conclure, hein, quels impacts sur les ressources? Alors là, on va aller plutôt du côté du 19e siècle. Je serai amené peut-être à reparler de ça lorsqu'on parlera d'impact sur les ressources, mais on commence à trouver, dans le premier 19e siècle, hein, au début de l'année 1840, des premiers documents qui évoquent des surpêches, des prises importantes. Je cite notamment un rapport qui est fait par Chasse de la Touche en 1840, et un rapport où il s'inquiète sur l'état de la ressource, notamment concernant les grands crustacés, les homards et les langoustes. Je cite, « Il en fut pris une énorme quantité pendant 2 ou 3 ans. Chaque semaine, 1500, 2000, jusqu'à 3000 gros crustacés étaient expédiés à Nantes, tandis qu'avant l'établissement du paquebot, alors entendez, c'est la création de la liaison par vapeur, hein, de la navette entre Nantes et l'Orient. On ne pêchait, donc avant l'établissement de ces navires à vapeur, on ne pêchait pas 100 homards par mois. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ce qui me pousse dans Terre des Îles, c'est d'aller regarder vers ce 19e siècle, parce que on voit bien qu'avec la mécanisation, la vapeur qui arrive, la possibilité assez rapidement de prendre une ressource et de la déplacer d'un lieu de pêche vers un lieu de consommation, faut aussi le corréler au chemin de fer tout ça, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte que le homard il part vivant parce qu'il a été pêché, comment dire, à Ouatt, Édic, Belle-Île, Groix, le vapeur l'amène à Nantes ou l'amène à Lorient, et puis par le train, dans la foulée, eh bien, on va l'amener à Paris. Et qu'il arrivera encore vivant parce qu'on a contracté les délais de transport. Et que ça génère une autre approche de ces ressources marines, qui glissent peu à peu au fond, on le voit bien, d'une ressource de subsistance, alors ce qu'elles étaient déjà, est-ce qu'elles vont bien sûr continuer à être, et ce qu'elles sont d'ailleurs probablement encore aujourd'hui, pour certains foyers, sur nos littoraux. Vous savez, tous les matins en longeant la route côtière où je vois des personnes avec leurs barcasses, alors on pourrait se dire tiens ils vont s'amuser tous les jours pêcher, mais en fait on est en droit de se dire ils ont peut-être des petites pensions et ben ils vont pêcher parce que ben, globalement ils le congèlent et ils le mangent parce que comme ils font leur potager parce que ben, ça participe comment dire des revenus, hein. Et ça évidemment c'est bien plus difficile à percevoir aujourd'hui, hormis peut-être par des enquêtes orales, sachant qu'on touche quand même aussi à des sujets extrêmement sensibles bien évidemment. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a un glissement en tout cas à partir de ce premier 19e siècle. Moi ce que je souhaite c'est cerner au plus proche ce glissement. Alors on connaissait bien sûr des ressources halieutiques d'exportation comme la sardine au XVIIe, dès la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle en Bretagne au sud, et l'idée c'est d'essayer de voir quand est-ce que ces ressources sur lesquelles nous travaillons elles sont intégrées dans un circuit marchand. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Concernant le sel, en fait, il y a plusieurs types d'exploitation. Donc, ça peut être des ressources d'estran dans le sens où on va faire évaporer, l'eau de mer dans des vasques, dans des retenues naturelles. Ici, en fait, par exemple, sur l'île, ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'on va transporter de l'eau de mer ou du sable pour le filtrer. Du point de vue de l'archéologue, en tout cas, ce qui est site archéologique et même les fours à Goémonier sont rentrés dans ce patrimoine matériel. Donc clairement, là, le projet Terre des Îles documente ce patrimoine pluriel, hein, à la fois matériel et immatériel, hein, ça c'est sûr.
Voilà. Vous voulez en cueillir, non?
Et du coup, vous les repérez comment? Alors, c'est la couleur, là, qui vous attire?
Non, mais j'ai connu ce bruit par habitude, hein, parce que...
Ah, bon, on va travailler, hein.
Si j'avais fait le métier, comme autrefois, je vous aurais donné les sacs à porter. Parce qu'on mettait ça sur le dos, pour tout au bas de la côte, hein. Au bas de la marée, forcément, là où elle finissait. Et, alors, pour monter la côte comme ça, je ne dis pas... Là, c'était quand même une corvée, hein. C'était pas du jeu.
Ah bah oui, c'est bien aussi, c'est du travail. Attends, je vais la prendre en photo.
J'ai une algue ramassée par Jeannette, qu'elle appelle le lichen. Okay. Et nous voulons une détermination spécifique.
Ok. Parce que le lichen, c'est pas vraiment une algue, enfin c'est une...
T'es prête?
Ouais.
Attention, j'ouvre la boîte. Voilà.
C'est du...
Ouais. Donc nous avons ça.
C'est du Condurus crispus.
Alors,
Condurus crispus.
Ok.
Ou alors Mastocarpus stellatus. Mais elles sont proches.
Ah oui, mais alors on veut une détermination. Alors, est-ce que ça, c'est la même chose? Attends, qu'est-ce qu'on avait? L'autre, celle-là.
Ouais, Mastocarpus telatus. Ça, j'en suis sûre.
Et celle-là, pas forcément.
Ça, c'est pareil.
Si?
Si. Celle-ci, elle a pris un petit coup de chaud, tu vois, elle est un peu plus verte.
D'accord. Et ça n'a pas altéré ses vertus chimiques?
Non, parce qu'elle, si elle fait du flan avec, en fait, c'est pas les protéines ou les colorants qu'elle cherche, mais c'est plus les phycocolloïdes, donc tout ce qui est carrageenan.
D'accord.
Donc c'est ça, mais oui, c'est la Mastocarpus telatus.
Donc la même chose.
Pour moi, oui.
Je m'appelle Anne-Sophie Burlot, je suis enseignante chercheuse, donc j'enseigne en biologie générale, biologie marine, et je fais de la recherche sur les algues, donc plus en biotechnologie, c'est-à-dire que je vais extraire des molécules issues des algues pour différentes applications. Mais actuellement, mon sujet de recherche est un peu plus fondamental puisque j'étudie ce que l'on appelle l'holobionte, c'est-à-dire le microbiome associé aux algues. Le projet de Terre des Îles, en fait, c'est Nathalie Bourgognon, qui est donc ma collègue au laboratoire de biotechnologie et chimie marine, qui m'en a parlé et qui m'a demandé de faire partie de ce projet. Donc, en tant que biologiste et spécialiste des algues. Et donc, voilà, on a voulu être toutes les deux sur ce projet-là pour être, vraiment apporter de la complémentarité à nos expertises, on va dire. Donc, on a fait une première réunion avec l'ensemble de l'équipe pour justement voir à quoi s'attendre sur le projet. Donc on a bien compris que c'était la recherche, on va dire, de l'exploitation de la ressource en algues, mais aussi en produits marins, à l'époque de la préhistoire. Donc après, nous, on pourra apporter de la connaissance sur les algues qui sont actuellement disponibles sur EDIC, et donc voir si on peut retrouver ces algues à l'époque préhistorique, quoi. Après, c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des archéologues, c'est une première fois. Et donc, c'est aussi un peu la découverte de comment on peut s'impliquer dans un tel projet. Mais en tout cas, c'est super enrichissant de côtoyer ces deux mondes, quoi, entre la biologie, on va dire, actuelle et l'archéologie, où là, on recherche vraiment le côté historique de l'exploitation de cette ressource, quoi. C'est vrai qu'au départ, les algues, quand on voit cette ressource-là, c'est vrai que la première application qu'on peut tester, c'est on prend l'algue, on la met dans la bouche, on regarde si ça peut être bon ou pas. Et puis après, on a pris ces algues, on les a mis sur le champ, on a vu est-ce que c'était bien pour le sol, pour les plantes. Et maintenant, on est beaucoup plus dans, on va rechercher les molécules qui vont avoir une activité spécifique pour telle ou telle application. Et là, on va vraiment chercher à l'extraire, à l'isoler pour augmenter cette activité, quoi. Donc c'est de la recherche plus poussée, mais en fait toute la ressource est intéressante. Et après, si on cherche vraiment une activité spécifique de l'algue, et ben là effectivement il faut aller chercher la molécule, chercher le composé actif, et du coup concentrer cette activité pour avoir un produit efficace, quoi. Et là on va taper sur des applications beaucoup plus ciblées. Donc on va pas forcément aller dans l'alimentaire, parce que l'alimentaire il nous faut tout, hein. Il nous faut des fibres, il nous faut des protéines, il nous faut des minéraux. Alors que si on va, par exemple, dans des crèmes solaires, et là, on va chercher une molécule de l'algue qui va avoir un rôle de photoprotection. Et c'est le cas dans les algues. Et bien, effectivement, quand l'eau est à marée basse, il y a des algues qui vont se retrouver sur l'extrant, qui vont être sous forme pas sèche, elles vont être ce qu'on appelle c'est la dissécation, donc elles vont être sans eau. Et donc là, les molécules qu'elles contiennent vont être super importantes pour la protéger des rayons UV. Et donc, en fait, l'idée, nous, c'est de récupérer ces molécules-là et de les inclure dans des formulations pour des produits solaires, par exemple, et donc utiliser vraiment cette activité spécifique de l'algue. On n'a pas forcément besoin de protéines pour se protéger des rayons UV. C'est vrai que nous, les algues, c'est très du terre à terre, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, il y a des algues, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les valoriser. Mais c'est aussi bien de regarder ce qui avait été fait avant par nos ancêtres et peut-être retracer un petit peu l'histoire de cette ressource, de cette exploitation de cette ressource. Donc c'était intéressant de faire le parallèle entre aujourd'hui et hier, quoi. En fait, on prend peut-être un peu plus de recul. On se dit que finalement, les algues, c'est pas une nouvelle ressource, quoi. C'est une ressource qui a déjà été exploitée auparavant et qu'au final, on découvre pas de nouvelles manières d'exploiter. C'est une ressource qui est là depuis bien longtemps, avant les hommes, et qu'au final, elles ont tout le temps fait partie de l'environnement de l'homme. Et c'est une ressource qui est facile d'accès. À toute époque, les hommes sont allés au niveau de la côte, ont vu cette ressource, ont vu le potentiel de cette ressource, et donc voilà, c'est une ressource qui est vraiment facile d'accès, quoi. Enfin, ça prouve cette accessibilité à l'échelle du temps long et moyen et court, quoi. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, que j'ai découvert aussi, c'est la méthodologie qu'utilisent les archéologues pour faire leurs recherches. Et nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, et puis on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait les mêmes méthodologies. Et du coup, ça apporte encore une fois des connaissances. Et nous, pour des potentiels projets dans le futur, on peut dire, les archéologues, eux, ils ont fait comme ça. Peut-être que nous, pour notre projet, on peut utiliser aussi des petites proportions d'une partie du corps de l'animal. Et finalement, on pourra trouver une proportionnalité avec l'ensemble de la taille de l'individu, quoi. Donc ça donne des idées. Après, dans le cadre de ce projet Terre des Îles, c'est vraiment... moi, ce qui me passionne, c'est en fait le travail des archéologues, quoi. Parce qu'on n'a pas eu, même lors de nos formations universitaires, on n'a pas eu de cours d'archéologie. Et donc, c'est vrai que la conférence qui nous a présenté Catherine Dupont, comment la biologie peut apporter à l'archéologie, en fait, beaucoup de choses, quoi. Et donc, c'est très enrichissant de se dire que tout ce qu'on fait en biologie, finalement, ça peut être aussi être utilisé pour étudier dans le passé, quoi. Et donc, c'est le premier projet entre archéologie et biologie où on est dedans, mais je pense que ça peut être le début de quelque chose, quoi.
Ramasser là où il n'y a pas de mousse, mélanger quand même, parce que ce sera plus beau.
Côté archéologique, pour l'instant, côté algues, ce qui va nous rester, c'est les petits coquillages qui sont fixés aux algues pour pouvoir en fait déterminer leurs utilisations et leur présence sur un site archéologique. Également, côté histoire, la question est de savoir si ces algues ont été notées dans les textes. Est-ce qu'elles ont participé éventuellement à un certain commerce? On peut avoir l'exploitation de la soude, qui a pu être une révolution aussi pour ces populations insulaires qui ont pu avoir aussi une source de financement d'argent supplémentaire. Également, en actuel, ce qui est intéressant, c'est que les biologistes actuellement peuvent recenser les algues et, en interrogeant aussi les populations actuelles, savoir ce qu'ils connaissent en fait des propriétés des algues. Certaines peuvent avoir des vertus pour se soigner, d'autres peuvent être utilisées dans l'alimentation. C'est quelque chose qui s'est fait en fait pendant très longtemps. Et également, quelque chose qu'on a oublié actuellement, mais en fait, l'algue a été la principale source de combustible jusqu'à l'arrivée en fait des grands commerces sur ces îles. Également, en fait, il faut voir que sur ces petites îles, il y avait très très peu. Donc, d'après les études, la végétation restait quand même assez éparse. Et même pour pouvoir élever en fait certains animaux, ça a pu être une contrainte. Et donc, on peut voir aussi à l'échelle quasi actuelle que, par exemple, certains animaux comme les vaches consommaient des algues. En fait, et on a une adaptation aussi de certains animaux. On peut aussi avoir les moutons qui vont s'adapter en fait à la consommation des algues. Et par exemple, l'étude des moutons, ça, on peut l'aborder en archéologie. Pourquoi ? Parce que les moutons sont conservés sur le site archéologique, les dents, et à l'intérieur des dents, on peut avoir des analyses chimiques qui peuvent justement corroborer cette consommation des algues par les mammifères. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées grâce à l'interdisciplinarité. On a une tendance à rajouter en fait en archéologie certains éléments qui sont des éléments plus récents, et on s'est intéressé donc avec une association qui est la Marais, par exemple, à recenser tous les fours à goémons. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir donc le côté archéologique avec ces fours à goémons, également des grandes entreprises qui vont faire appel à la soude. Donc dans les textes, on peut avoir présence de l'exploitation de ces algues. Et également, on a quelques documents aussi vidéo qui sont conservés par l'association locale qui est l'association Mélevent, où on va avoir aussi une description de ces activités.
Voilà, je te montre. Alors voilà, c'est cette espèce, ouais. En fait.
Alors c'est un mélange de chondrus et de mastocarpus, mais alors, les deux sont des caragénophytes.
Alors est-ce que tu es sûre, parce que donc Anne-Sophie Burlot nous a fait l'identification et elle nous a pas dit qu'il y avait du chondrus. T'es sûre qu'il n'y a pas que du... Alors la deuxième, tu as dit...
C'est peut-être mastocarpus. Pour moi, c'est principalement du mastocarpus. Mais il se ramasse... Ça, c'est peut-être une forme de chondrus, tu vois.
C'est mastocarpus stellaria ?
Stellatus.
Stellatus.
qu'il y a à peu près une petite trentaine d'algues qui sont autorisées à la consommation, dont celles sur l'estran, là aujourd'hui. Donc là, j'en ai ramené trois avec Anne-Sophie hier. On a ramené de l'ulva, donc c'est la laitue de mer. On a ramené la Palmaria palmata, qui on appelle communément la dulce. Et on a ramené du porphyra, qu'on appelle le nori. Donc là, elle est en train de préparer un tartare. Donc ça, moi, c'est celle que je préfère. On peut se nourrir pas mal d'algues brunes aussi. Enfin, on peut utiliser pas mal d'algues brunes, mais les algues brunes, elles ont tendance à fixer plus facilement les métaux lourds. Donc moi, je les aime moins. Mais on en mange plein. Hein. Elles sont beaucoup en vente en Bretagne. Je les aime moins. Je suis plus prudente. Voilà là-dessus. Mais bon, toutes les algues sont bonnes à manger. Hein. Il y a les 26 qui sont autorisées, mais à partir du moment où tu les collègues dans un endroit qui est propre, voilà, c'est un légume de la mer, hein, comme un autre. Hein. Je suis Nathalie Bourgougnon, je suis professeure à l'Université Bretagne Sud. Je suis sur le campus de Thoanic. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marine, qui est une EMR, équipe mixte de recherche du CNRS. Dans les communautés littorales, Irlande, France et en Asie, voilà, c'était utilisé comme légume de la mer depuis la préhistoire. Hein. Alors aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, et quand on se penche un peu sur, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. En fait, les algues, elles ont je parle en Europe, hein, elles n'ont pas forcément une belle image, parce que pendant les périodes de disette, comme il y avait des soucis d'approvisionnement, on donnait à manger au bétail des algues. Donc les algues, elles ont un peu cette image de végétaux pas très nobles qu'on donnait quand il n'y avait plus rien à manger. Et elles ont gardé en fait cette image-là. Comme moi, ma mère, elle peut pas manger de topinambour parce que ça lui rappelle la guerre. Et ben c'est un peu la même chose. Elles sont associées aux côtés d'isette. Mais pourtant, elles reviennent à la mode. Alors mais je pense que le grand public n'est pas au courant, mais il y a des Australiens qui ont montré, c'est l'équipe de Rocky de Nice, qui ont montré que si tu donnais manger effectivement des algues au bétail, eh bien elles produisaient moins de méthane. Elles pétaient moins, et donc ça avait un impact positif sur l'atmosphère. Donc il y a plein de choses qui ont été montrées, hein. Mais ça, le grand public, il ne le sait pas tellement. Il y a le côté végétaux, pas très noble, dans le sens végétaux inférieurs, hein. Dans un livre de botanique, les premiers chapitres, on dit les anciens, c'était végétaux inférieurs, ouais. Après végétaux supérieurs, c'était les angiospermes. Donc moi, je me souviens souvent, dans les réunions avec les chercheurs, le fait de travailler sur les algues, c'est pas très noble, parce que c'est les moins évolués. Mais tout ça, ça a un petit peu changé quand même. Puis là, on parle de la révolution des algues. Elles sont plus ou moins riches, voilà, en protéines, en acides gras. Alors, il n'y a pas beaucoup de lipides, hein, pas beaucoup de gras, mais il y a des acides gras de qualité. Et des protéines, des acides aminés qui sont aussi présents en aussi grande proportion que dans le soja ou dans l'ovalbumine du l'œuf. Donc voilà, elles ont des intérêts alimentaires qui sont intéressants ils sont étudiés, hein, mais à valoriser. Alors après, il ne s'agit pas de remplacer du jour au lendemain une légumineuse avec une algue, mais d'introduire petit à petit des algues dans l'alimentation régulièrement, c'est intéressant. Alors par exemple, là, on a déposé un projet, mais on attend le retour. Chez les personnes dénutries qui arrivent à l'hôpital, qui ont un pourcentage de protéines très bas, parce que voilà, elles s'alimentent mal, elles sont des personnes âgées ou des personnes plutôt malades, eh bien, c'est toutes ces vagues de patients qui arrivent à l'hôpital sont très dénutries. Et donc, il faut leur fournir des protéines. Et depuis 2018, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui incite les collectivités, les restaurations de plus de 200 repas, d'introduire, de diversifier l'offre de protéines dans l'alimentation. Donc, habituellement à l'hôpital, et encore beaucoup dans certains hôpitaux, protéines, tu donnes du lait. Voilà, du lait, du fromage. Donc là, l'idée, c'est d'introduire des nouvelles sources de protéines, donc des légumineuses, des pois chiches, des haricots, des choses comme ça. Et notre projet, c'est d'introduire dans cette alimentation des algues. Et on travaille avec la restauration du CHU de Brest, où ils ont des vraies cuisines, des vrais cuistots. Ils fabriquent leurs propres gâteaux, c'est pas des gâteaux industriels. Et donc nous, notre objectif, c'est d'introduire l'algue comme légume ou alors des ingrédients enrichis en protéines issus des algues dans l'alimentation de cette population dénutrie.
Moi, les biologistes, elles m'ont bluffé, quoi.
Tu vois, elle vient vers toi, elle a envie de voir ce que tu as ramassé. Enfin, pour moi, c'est un partage, en fait, c'est des échanges humains, tout simplement. Et comme j'ai fait de la biologie avant, je trouve que c'est... réussir à ce que des collègues en biologie s'intéressent à ta discipline, enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Ça se trouve, ça leur a changé leur vie, là. Non, mais ça peut carrément te réorienter tes axes de recherche. Là, Gaëlle, pareil, qu'elle ait fait une présentation sur les pêcheries, elle n'est pas du tout spécialisée pêcherie. Faire une présentation sur la saisonnalité des échouages. Un des plus beaux résultats que j'ai pour ce projet, c'est d'avoir fait en sorte que des biologistes qui travaillent certes sur des algues se soient tournés vers des données en archéologie. Moi, je trouve ça génial, parce que la bibliothèque, on l'a fait toujours pour sa discipline. Et là, voilà, elles ont fait l'effort, des collègues, sur le volet interdisciplinaire du projet. C'est vrai que l'algue est intéressant parce qu'il a pu être interrogé par les interviews auprès des populations. Du coup, on a pu aller, même avec Jeannette, une habitante, ramasser des algues. Et elle était persuadée d'avoir récolté une algue. Et donc, de pouvoir demander à un spécialiste d'avoir une détermination, c'est quand même assez intéressant. Comme ça, on va vraiment pouvoir mettre derrière le nom un peu local, en fait, qu'utilise Jeannette. Donc, du coup, elle utilise le nom de lichen. Pouvoir mettre un nom scientifique derrière, c'est intéressant. Et également, ce modèle d'algue a ensuite été utilisé aussi à la fin du XXe siècle par un industriel qui faisait de la cosmétique. Du coup, en fait, il a demandé aux femmes du village de ramasser cette algue. Et là, ça rentre dans le volet économique et voire aussi dans le volet historique, en fait. Et voir, en fait, pourquoi à ce moment-là, cette personne a recherché ce produit-là. Donc sans doute, il y a un lien avec l'évolution des cosmétiques à ce moment-là et une demande plus forte du public. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et également, ça a permis des discussions aussi avec les collègues qui travaillent sur les algues, sur la comestibilité des algues. Et du coup, finalement, moi je suis une spécialiste des coquillages. Là, vous avez une spécialiste des algues qui va vous dire que toutes les algues se mangent, en fait. Donc ça permet d'ouvrir, en fait. Moi, j'avais pas du tout cette notion de pouvoir consommer des algues. Et on peut imaginer des populations préhistoriques qui essayent de diversifier leur alimentation. Et en cas de disette, en fait, elles ont pu aussi se tourner vers les algues. Donc là, ça va sans doute avoir des conséquences sur les questions que je vais poser aux collègues qui travaillent sur la composition des ossements humains, qui visent à travailler sur des isotopes de l'azote, du carbone, entre autres, et de l'oxygène, et qui ont pour but, en fait, de pister, en fait, l'origine des aliments. Donc là, leur poser la question, parce que souvent, en fait, leurs résultats sont un peu dépendants de ce qu'on trouve. Donc là, leur poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, un traceur d'algues dans ce qu'il y a dans ces résultats ? Également, dans la gestion du patrimoine actuel, les algues, et ça, c'est vrai que quand on n'est pas, en fait, dans la gestion des territoires insulaires, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, la mairie d'Édic et le conservatoire du littoral ont décidé, en fait, de conserver les algues qui s'échouent sur les plages. Donc ça pourrait, par exemple, être néfaste au tourisme, mais non, en fait, c'est pour préserver la biodiversité, pour permettre à certains oiseaux de nicher aussi. Donc là, on voit quand même un certain basculement aussi qui s'opère à l'échelle, en fait, aussi du monde entier, hein, de respect de la nature et de favoriser, en fait, la reproduction des espèces et la diversité. Donc voilà, ça c'est aussi un point intéressant. Et après, dans les difficultés qu'il peut y avoir, là, je pense à ça, c'est Émilie, donc, qui travaille avec le Conservatoire du Littoral, c'est comment trouver l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer dans les actions communes. Donc là, on va essayer de faire entrer, en fait, certaines de ces actions dans un article collectif des algues. Et puis, Laurent Garnier, qui travaille aussi à Natura 2000, lui aussi peut avoir pas mal d'interrogations sur donc la conservation des espèces. Donc là, c'est intéressant de pouvoir interagir avec lui sur le volet aussi archéologique et aussi historique. Parce que en étant sur place, il observe des variations des environnements liées, par exemple, aux grandes marées. et même à l'érosion marine. Et donc là, il s'est créé un dialogue qu'il n'y avait pas du tout au début. Donc voilà, dès qu'il y a un site archéologique qui sort, quelque chose de bizarre, il interroge le groupe. Donc voilà, ça c'est des interactions qui sont nées grâce au projet. Le projet d'Air des îles nous a ouvert d'autres questions, d'autres thématiques. Par exemple, pour les sites archéologiques, j'avais entendu parler de l'utilisation des algues, mais je ne pensais pas que cette utilisation des algues pouvait être aussi importante. Et dans les descriptifs du coup de la fin du 18e, on voit en fait un visiteur extérieur à l'île qui pénètre une maison et qui est complètement enfumé parce qu'elle est chauffée par les algues, les aliments sont chauffés par les algues. Et ça, en fait, j'avais pas en fait perçu cette chose-là. Et ce qui fait que maintenant, sur les sites archéologiques, en fait, la question que je vais poser aux personnes qui font de la chimie, c'est essayer de pister au maximum en fait l'algue. Et même moi, j'ai fait des tamisages avec de l'eau de mer. Et dans l'eau de mer, il y a des algues. Je pense que je ferai plus de tamisage à l'eau de mer. Voilà. Ça change vraiment la vision des choses. L'importance en fait des algues dans le quotidien. On se pose la question à chaque fois de où est-ce qu'ils trouvaient les arbres pour faire du feu. Et en fait, on cherchait pas au bon endroit, c'est les algues. Alors il y a des collègues qui l'ont décrit, mais je pense qu'on n'a pas été chercher de ce côté-là. Si un jour on arrive à décrire en fait toute cette diversité d'algues, ça serait vraiment super intéressant. Et si on arrivait à montrer que les mésolithiques mangeaient des algues, ce serait super super intéressant. En fait, le problème, après, c'est la description en actuel et pouvoir trouver le moyen de le prouver en archéo. On a l'impression que l'archéologie, ça fait partie de l'histoire de l'art. Enfin, c'est souvent classé dans ces disciplines-là, mais finalement, on a besoin de faire des choses un peu assez rationnelles et scientifiques pour prouver nos hypothèses. Et là, la question, c'est comment faire le lien entre une exploitation d'une ressource qu'on peut décrire actuellement avec l'archéologie. Sur des coquillages, on a la coquille. Sur les algues, on n'a plus l'algue. On n'a plus rien. Donc, un challenge.
C'était Les ressources de l'Estran en Bretagne Sud, 3e épisode. Avec Catherine Dupont, archéologue, directrice de recherche au CNRS et co-responsable du projet Terre des Îles. Christophe Serino, ingénieur de recherche en histoire et patrimoine maritime au CNRS et co-responsable du projet Terre des Îles. Anne-Sophie Burlot, enseignante chercheuse en biologie marine. Nathalie Bourgougnon, enseignante-chercheuse en biotechnologie et biochimie marine. Et Jeannette Blanchet, la doyenne de l'île d'Édic. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien de la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne.